Bonjour à tous. Le temps des chrysanthèmes arrive et avec elle la fête de tous les saints et des défunts. Les vacances de la Toussaint sont une période propice, même dans le monde païen, pour parler de la mort. C'est le moment de se rendre au cimetière, de prier sur les tombes de nos ancêtres ou de nos défunts plus proches. Mais ose-t-on réellement aborder le sujet de la mort en famille ou entre amis? De la mort prochaine de nos parents, notre propre mort ou des morts qui nous ont affectivement touchés? C'est ce dont nous allons parler avec mes invités.
Vie de famille, Alban Cassagno.
Bonjour Chrysoline.
Bonjour Alban.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors je vais prendre le temps de vous présenter. Donc Chrysoline Dahl, vous êtes mère de famille, nombreuse et mariée, et vous êtes également aumônier à l'hôpital Saint-Vincent de Paul à Lille, donc à l'écoute des malades, des soignants et des familles. Et vous, Emmanuel de Maillard, vous êtes marié, père de famille également, et vous accompagnez, vous êtes en accompagnement en coaching de la responsabilité sociale chez Decathlon. Et par ailleurs, vous êtes formateur sur les thèmes tels que vieillir dans la joie, le sens de la vie, les valeurs, le management, et également bénévole en soins palliatifs. Mais c'est vrai qu'il manquait une flèche à votre arc, celle de la mort. Alors comment, Emmanuel, l'avez-vous ajouté?
Je l'ai ajouté il y a 2 ans. En créant sur l'île les premiers apéros de la mort, qui est un espace de parole pour tous, qui permet tout simplement de venir et parler ensemble de ce sujet un petit peu tabou.
Et vous, Chrysoline, qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que c'est assez récent, votre statut d'aumônier. C'est un appel, quelque chose de très fort chez vous?
Oui, c'est un appel. Déjà, j'ai été appelée pour cette mission. Et dans mon cœur, c'est vraiment, ça fait longtemps, ça fait plus de 20 ans, de la part du Seigneur, justement, cet appel-là, d'accompagner les personnes en fin de vie, d'accompagner les malades, les souffrants.
Sacré engagement, enfin, en tout cas moi qui m'édifie, je me permets de le dire. Alors, donc parler de la mort, c'est pas si évident que ça, même sur notre radio. Est-ce que vous êtes partie d'un constat ou d'une étude qui montre que la mort vit cachée?
Moi, le point de départ, en fait, on n'a rien inventé avec ces apéros de la mort. Parce que c'était en 2004, c'était un sociologue suisse, Bernard Creta, qui se rendait compte qu'il y avait de moins en moins d'espace où on pouvait parler de la mort. Et partant de ce constat, il a créé ce qu'on a appelé les cafés de la mort, qu'on peut retrouver dans quasiment tous les pays maintenant dans le monde, qui était un espace de parole laïque sur la mort. Et bon, il y a eu plusieurs versions. Nous, on a lancé l'apéro de la mort, et avec Colette Madeleine, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Et en se disant que nous aussi, on avait envie de contribuer à ouvrir cet espace-là, en se rendant compte qu'il y avait de moins en moins de signes visibles du deuil, notamment. Avant, il y avait des tenues vestimentaires, il y avait des couleurs, on savait. Et maintenant, on se rend compte que, moi je le vois dans le monde de l'entreprise notamment, il peut y avoir des deuils dont on n'est même pas au courant, donc on prend moins soin des gens, on n'en parle peut-être même pas d'ailleurs, à certains moments. Et qu'ouvrir un espace était précieux, parce qu'on avait tous des histoires qui nous ont construites autour de la mort, et que finalement, en en parlant, bah, c'était aussi mettre la vie sur ces personnes qui comptaient pour chacun d'entre nous.
Donc c'est aussi un mouvement quand même aussi qui vient du Canada, Happy End ou...
Alors Happy End, c'est une association qui est née à Paris et qui accompagne tous ces sujets autour de la mort, donc avec l'idée de rendre visible, de nous aider à préparer nos funérailles, des sujets un petit peu tabous sur lesquels on essaie de mettre, cette association essaie de mettre de la vie.
Et vous, Chrysoline, comment vous abordez ce sujet de la mort au sein de l'hôpital? Est-ce que c'est un sujet effectivement qui est un sujet ou au contraire, là aussi, on en parle peu?
C'est toujours délicat, on prend le temps bien sûr avec le patient, parce que voilà, moi je suis face au patient mais je ne connais pas forcément sa maladie ou voilà, là où il en est, sauf plus particulièrement si je vais en soins palliatifs. Mais c'est vrai que c'est toujours délicat, c'est un sujet qu'on aborde peu, mais quand même, voilà, on l'évoque à un moment
donné. Quand on est malade, je pense que forcément c'est à un moment donné une question qu'on a, non?
Oui, quand même, oui, ça vient, ça traverse
l'esprit. Même si la maladie n'est pas forcément toujours grave d'ailleurs, ça pose question.
En fait, l'être humain se reconnaît faible à ce moment-là, se reconnaît affaibli et justement est un peu désemparé. Hein, parce qu'aujourd'hui, le monde nous demande d'être toujours bienveillant, debout, actif. Et ça, c'est vrai que c'est difficile pour eux. C'est un deuil, c'est déjà un premier deuil quand on est malade, souffrant. C'est ce premier deuil-là à faire qui n'est pas facile à accepter et justement qu'on accompagne, en fait. Voilà.
Alors justement, je parle bon, de la mort. Même le mot mort est un mot rarement employé. Et je me demandais si vous préfériez qu'on parle de décès. Petite question piège. En fait, il y a une nuance forte hein, entre les deux mots, mais c'est vrai que souvent, alors on parle de disparition, etc., mais on évoque peu le mot de la mort. Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel? Oui.
Puis d'ailleurs, on utilise souvent beaucoup d'autres mots pour parler d'une personne décédée, d'une personne morte. On dit « elle est partie ». Enfin, il y a plein de mots en fait, qui sont souvent utilisés. Et je me rends compte, moi, que souvent, déjà, de poser ce mot, c'est souvent déjà une libération pour les personnes, en fait. De poser le mot, des fois, ça permet aussi de libérer un peu la parole. Et moi, je suis à l'aise avec ce mot-là. Mm-hmm. Et je crois que ça permet aussi de donner de l'espace aux personnes que j'accompagne pour poser des mots dessus.
Oui, on ne peut pas jouer. Enfin, le mot mort, il est posé, quoi. Ouais. Donc, ça ne vous gêne pas et on va continuer avec celui-là. Est-ce que les gens, alors avec votre expérience des cafés de la mort, hein, je ne sais pas si vous en avez déjà animé beaucoup, mais est-ce que les gens ont peur de leur, en premier de leur propre mort ou de celle des autres, à votre avis?
Bah, le constat, c'est qu'il y a tous les profils qui viennent à ces apéros de la mort. Il y a autant des personnes qui viennent parce qu'eux-mêmes ont peur de leur propre mort et du coup, le fait d'en parler, d'entendre des partages d'expériences, leur permet d'apprivoiser petit à petit ce que c'est ou ce que ça pourrait être. Et donc, on a des personnes qui reviennent d'ailleurs. On a fait 6 apéros de la mort déjà à Lille. Et il y a d'autres personnes maintenant qui en organisent d'ailleurs. Et donc, elles reviennent. Il y a des personnes qui sont venues 6 fois et qui reviennent avec plaisir, avec joie, de se dire « je me sens un peu mieux avec ce sujet-là ». Et on a aussi des personnes qui viennent parce que les morts autour d'elles, voilà, les touchent, les ont touchées. Et puis, elles ont des histoires qu'elles ne peuvent jamais raconter aussi, je crois, où il y a peu d'espace finalement pour raconter les histoires de nos vies qui ont compté. Et pendant ces moments, moi, j'ai la chance d'être témoin d'histoires de vies profondes, incroyables, qui ont formé chaque personne, quoi, qui ont fait ce qu'elles sont maintenant.
Et vous, Chrysoline, par rapport aux gens que vous côtoyez, du coup, à l'hôpital, est-ce que ce soit les soignants ou les familles ou les malades elles-mêmes, elles ont peur de laisser quelqu'un, de laisser les autres, elles ont peut-être même pas peur, je ne sais pas d'ailleurs, je parle de peur, mais peut-être que tout le monde n'a pas peur.
Tout le monde n'a pas peur, mais certaines quand même disent, par exemple, si c'est le papa ou la maman voilà, qui est bientôt sur le départ, tout de suite dit, peut-être des fois au médecin, même surtout, ne lui dites rien. Donc c'est vrai qu'on veut la cacher, cette mort, on a peur de ce départ, de cette séparation, hein. Et à la fois, en fait, quand on accompagne, c'est important, voilà, justement, de montrer d'être en vérité face à ça, hein, à ce qui nous attend tous. Mm-hmm. Donc, l'importance de mettre vraiment, justement, de poser les mots de mort, de décès, de départ, de séparation, c'est important, en fait.
Et d'utiliser les mots que les gens sont capables d'entendre, voilà. J'imagine. Ouais. Ah, ouais, c'est sûr. Alors, un décès sur 5 a lieu en EHPAD, hein, donc, et malgré tout, la mort dans ces endroits-là, il reste très tabou, hein. Des petits chiffres d'une enquête, mais 77,6% des établissements déclarent que la mort des résidents est dissimulée. Ça m'édifie. Que 17% n'annoncent pas le décès des autres résidents, que c'est fait par voie d'affiche. Enfin, c'est quand même. On est quand même dans une société qui rend la mort difficile, en fait, hein, vraiment. Quand oui. On le cache donc aux vieux, entre vieux. Et aux enfants, enfin, quelle est votre expérience de ça, Emmanuel, sur le terrain?
Moi, souvent, ce que je raconte, mais notamment par rapport aux enfants, puisque moi, avec mes enfants, on en parle souvent. Et je me rends compte que les enfants, ils ont souvent vu des centaines de morts à la télé, en jeux vidéo, mais ils n'ont jamais vu une personne morte en vrai.
Ça reste très abstrait.
Alors qu'avant, moi, j'ai mon grand-père, il était à la maison, quand il était, avant de l'emmener à l'église... Et on était avec lui, on l'a vu.
On était autour du défunt.
On était autour du défunt, on y passait quelques jours, potentiellement. Et maintenant, on a vu plein de morts virtuelles.
Et vous avez l'impression que ça vous a construit ?
Et moi, ça m'a construit. Et j'en ai des images encore. Dans ma vie, il y a quelques images fortes, celles-là en fait partie.
Qui sont tristes ou joyeuses ?
C'est comme les enterrements, il y a toujours ce mélange, moi, je trouve un petit peu bizarre. D'un moment de famille, on se retrouve, on voit des personnes qu'on ne voit pas souvent, on se raconte des histoires. Triste, joyeuse, et il y a toujours ce mélange en fait de la disparition et en même temps de raconter des belles histoires sur la personne qui est partie et de revoir des personnes qui comptent. C'est partagé.
Et vous, Chrysoline, alors soit votre expérience, soit effectivement Qu'est-ce que ça vous fait dire, ces morts qu'on cache les uns aux autres, aussi bien entre personnes âgées qu'aux enfants? Comment vous abordez ce sujet?
Moi aussi, j'en parle à mes enfants. Et c'est vrai que c'est important. Enfin, moi, je me souviens d'avoir eu une famille dont le papa était décédé, deux filles, et puis elles n'osaient pas faire venir leurs enfants, leurs filles. Et je leur disais, mais il est beau. Il est beau, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, les défunts sont
bien maquillés.
Et il était souriant, Et du coup, ça laisse quand même un souvenir. Et puis, ça fait partie aussi du deuil. C'est important, en fait. On en a besoin.
On en a besoin. Alors, j'aime beaucoup l'épigraphe du livre « Deux petits pas sur le sable mouillé » de Anne-Dauphine Julien. Elle a perdu donc une petite fille et son fils Gaspard, l'aîné, disait, ou a dit à sa maman, ou a écrit, je ne sais plus, mais c'est pas grave la mort, c'est triste, mais c'est pas grave. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est pas grave la mort ou au contraire, le fait de savoir mortel, c'est grave?
Pour moi, c'est ce qui me rend plus vivant tous les jours. Et donc, c'est pas grave. Il peut y avoir des morts dures, il peut y avoir de la violence, il peut y avoir plein de choses. Pour parler d'expérience soins palliatifs, j'accompagne plus de personnes âgées que de personnes jeunes, mais c'est révoltant d'avoir des personnes jeunes qui meurent, des enfants.
Des enfants, ouais.
Et ça, c'est violent. C'est pas grave, mais c'est violent et c'est profondément dur et triste et insupportable. Et voilà. Et pour autant, voilà, c'est ce qui rend aussi la vie incroyable, c'est le fait qu'on soit mortel.
Alors, nous sommes toujours sur RCF Hauts-de-France, en vie de famille, avec donc mes invités Chrysoline Dahl et Emmanuel de Maillard, et nous dissertons sur la mort. Est-ce que parler de la mort, c'est ajouter de la vie à la vie? Est-ce qu'effectivement, le fait d'en parler, le fait de savoir qu'il y a une fin, nous rend plus vivants et peut aider des gens qui sont, peut-être qu'à travers les cafés, vous le voyez peut-être plus, que le fait d'oser s'approcher, en parler, finalement, va rendre la vie plus savoureuse.
Il y a beaucoup d'histoires et beaucoup de religions qui, d'ailleurs, qui prônent de parler de la mort. Penser à sa mort 5 fois par jour pour se sentir plus vivant. Et que le fait d'être conscient de sa finitude, c'est pour moi un moyen d'être beaucoup plus vivant au quotidien. Le fait d'en parler autour de soi. On en a beaucoup parlé, moi, avec mes parents notamment, et au service de la vie, puisque c'est l'idée, c'est de se dire qu'en en parlant, on va mettre en valeur l'essentiel, ce qui compte pour nous. Et donc, pour moi, parlons-en. Parlons-en, au contraire.
Alors, il y en a qui disent qu'il faut préparer leur mort. Dernièrement, j'ai entendu le père Bertrand Bousquet qui disait non, on ne prépare pas sa mort. Ça, c'est un truc de philosophe, même de philosophe païen. Parce que pour lui, en fait, dans la vie chrétienne, on ne prépare pas sa mort, on se prépare à la résurrection. Alors, je me tourne plus vers vous, Chrysoline, pour savoir si effectivement, vous qui êtes habité manifestement par un appel particulier du Seigneur, vous avez cette dimension quand vous vous adressez aux uns et aux autres. De cette vie éternelle.
Cette vie éternelle, oui. C'est mon espérance, justement. C'est cette vie éternelle. C'est cette vie où, justement, moi aussi, tous les patients que je rencontre, les familles, enfin, tous ceux qui partent, justement, je me dis qu'un jour, je les retrouverai. Un jour, on sera tous ensemble dans cette vie éternelle. Et puis, en fait, quand on parle avec les patients, les familles, en fait, on fait revivre aussi déjà nos défunts. Parce que tout ce qu'on fait, on les rend vivants, parce que l'amour ne meurt jamais. Donc cette vie, elle continue, en fait. Elle continue autrement, différemment. Mais oui, il y a toujours quelque chose. Enfin, il y a toujours une vie, en fait, après la mort, quand même. C'est une mort qui est... Voilà, on a tous des petites morts, hein, voilà. Et là, cette mort-là nous fait entrer vraiment dans une vie éternelle qui ne s'arrête pas. Et oui, bien sûr, c'est l'espérance que moi je porte après,
ouais.
En
même temps, cette vie éternelle est promise dès aujourd'hui, en fait, aussi.
Oui,
hein, donc,
oui. Ah ben, on s'y prépare, voilà. C'est ça. En fait, aujourd'hui, on s'y prépare. C'est vrai que moi aussi, j'essaye de penser à ma mort. Voilà, c'est vrai que je ne sais pas, moi-même, si j'aurais la capacité d'accueillir, justement, un aumônier, d'être... d'être entourée comme ça, mais c'est tellement... j'ai envie de me préparer, oui, à cette vie éternelle. C'est mon cheminement un peu de tous les jours, mais je fais comme je peux.
Voilà. Et alors justement, vous disiez que bon, dans notre vie, on fait l'expérience de beaucoup de petites morts, de morts à nous-mêmes et de morts aussi. Alors, est-ce que dans vos cafés de la mort, est-ce qu'il est question des deuils qui sont mal vécus et qui peuvent en entraîner d'autres, hein, avec une crispation, je pense à des deuils de perte d'animaux familiers ou bien de déménagement, enfin de circonstances qui font qu'on doit vivre un quitter quelque chose, quitter quelque part, quitter quelqu'un.
Alors, on a peu parlé de ces sujets-là. Les sujets, quand même, étaient des morts de personnes.
De personnes.
Ouais, de personnes proches. Et on a peu parlé de sujets, mais ça pourrait, de morts d'animaux, de deuil, de changement
en fait,
de vie.
Ça,
ou autre,
ça pourrait être l'occasion, en tout cas, peut-être pour les adultes, quand ils accompagnent leurs enfants ou des enfants, prendre conscience de ça aussi, peut-être, en parlant.
En tout cas, c'est sûr qu'on en prendra plus conscience en parlant, mais ça a été peu abordé avec cet angle-là pendant les apéros, en tout cas. Voilà, les expériences étaient tellement variées, tellement diverses. Et encore une fois, comme le public change à chaque fois, il se passe un truc différent à chaque fois. Et donc, l'expérience à chaque fois, c'est la surprise, hein, on ne sait pas ce qui va se passer.
Et qu'est-ce que vous conseilleriez à des parents face à la mort ? Par exemple, voilà, on vit à côté d'une voisine pendant plusieurs années, elle vieillit, elle meurt. Voilà, de saisir ces occasions qui sont tristes, hein, mais réelles. En attendant, parce que en fait, le problème, c'est que aussi la mort arrive quelquefois, alors ou très tôt. Bon, vous en faites l'expérience, surtout vous, Kézoline, dans votre métier, mais aussi quelquefois, ça arrive très tard dans nos vies. En fait, les parents vivant plus tard, les grands-parents, enfin, finalement, quelquefois, ça arrive de perdre nos grands-parents, on a 40 ans. Donc, en fait, c'est très tard pour faire cette expérience réelle de la mort, de ce que c'est qu'un mort, de ce que c'est que le rite des funérailles, quelle que soit la religion qu'on ait. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez ?
D'accompagner justement voilà, les enfants.
Oui, d'emmener les enfants.
Oui, je le favoriserais. Après, c'est chaque enfant aussi. C'est vrai, quand ils sont tout petits, ils ne peuvent pas vraiment décider. Mais pour eux, la personne est en train de dormir. Mais à la fois, ils ont vu cette personne. Et je pense que, quelque part, même leur dire plus tard, voilà, tu as vu ta grand-mère qui était défunte. Voilà, ça peut aussi les aider. Et c'est vrai que quand on a 40, 50 ans, de voir pour la première fois un défunt, c'est vrai que c'est difficile. Mais ça me semble aussi important, en fait. Parce que ça permet aussi de faire son deuil. Enfin, toujours, on revient sur le faire son deuil qui est important et qui est pour chacun différent, étape par étape, qui peut être plus ou moins long. Mais pour moi, ça fait partie de... Voilà, de l'étape du deuil, ouais, qui est importante. Ouais.
Alors, effectivement, vous disiez à un moment donné que dans le deuil ou dans la mort, il y a à la fois quelque chose de triste et quelque chose d'heureux, notamment dans les rites funéraires, dans ce rassemblement familial souvent ou amical. Est-ce que quelquefois, ça pourrait même être choquant finalement de voir des gens qui ont peut-être foi en cette vie éternelle et puis qui du coup en font presque une fête ?
Non, c'est pas choquant du tout. C'est pas choquant du tout pour moi. Enfin, pour voilà, c'est vrai que c'est une âme qui s'élève. Enfin, voilà, c'est une âme aussi. Hein. Voilà, on parle plus là de. On parle vraiment d'une âme qui s'élève et qui va dans cette vie autre, dans cette vie éternelle. Donc, c'est une joie. C'est une joie aussi de se dire que nous aussi, on ira un jour aussi. Donc, moi, ça peut être festif, oui. Ça peut devenir festif, oui.
Mmh. Et vous, Emmanuel, vous partagez cette possibilité ?
C'est une possibilité. Moi, ce qui m'est dur parfois, c'est quand les personnes mettent une injonction à la joie, en disant, moi, j'ai envie que mon enterrement soit joyeux. Alors, on se demande pour qui est le rite, hein, pour qui, est-ce que c'est pour ceux qui restent, la personne est partie. Tout est possible, en fait. Il y a de la place pour de la créativité, pour aussi faire quelque chose qui ressemble à la personne qui est partie. Il y a des pays qui ont des initiatives... Je crois que c'est en Australie où les gens de leur vivant préparent leur cercueil. Il y a une association qui fait ça. Ils le décorent, ils le font qui ressemble à la personne. Ils en font un moment plein de vie, en fait. Et il y a aussi des constructions mentales autour de ces moments-là. Et pourquoi pas s'autoriser de faire quelque chose qui soit différent et qui ressemble à la personne qui part et qui soit, qui puisse être voilà, festif, différent, c'est possible. Et à Lille, il y a une coopérative funéraire qui propose des choses, des alternatives différentes aussi et qui essaie de, d'accompagner le mieux possible ces moments-là. En sortant du cadre un petit peu technique qui est aussi là. Donc, et souvent, bah, quand on n'est pas prêt, on est un peu dans l'urgence. Et pour autant, d'en parler avant, ça permet aussi de laisser de la place à ce qui peut se vivre, d'émotions, de partage, et être peut-être un peu moins dans la technique aussi.
Et est-ce que dans vos apéros de la mort, ça fait partie d'un sujet alors, de préparer sa mort, justement, de préparer son... son rite, sa messe, selon les cas, d'y réfléchir, ça prépare certainement.
C'est un sujet qui revient souvent. Qu'est-ce que j'ai envie pour ma mort ? Et les personnes en parlent régulièrement. Aussi bien dans ces apéros de la mort que dans les accompagnements soins palliatifs. Il y a des personnes qui ont déjà tout préparé, la messe, tout est écrit, comment ça doit se passer.
C'est courageux quand même, non ? Vous voyez ça comment, vous, quand vous savez que les gens ont déjà tout préparé ?
Je ne sais pas si c'est courageux. Il y en a qui ont la capacité de le faire, d'autres non, parce que moi après, donc je ne dirais pas qu'il y en a qui ne sont pas courageux, d'autres courageux.
Oui, c'est ça.
Je dirais que voilà, chacun a fait son chemin et on est là où il y en est.
Voilà. Oui, c'est ça. C'est un temps, chacun a un temps. Dans notre société, quand même, la mort apparaît quand même comme un échec, notamment un échec de la toute-puissance médicale. Comment est-ce que vous percevez ça ? Parce qu'on n'a pas réussi à sauver une personne, donc... Et pourtant, elle avait l'âge peut-être, ou voilà, où la maladie était suffisamment installée pour que ce soit comme ça. Est-ce que c'est un échec, la mort, pour vous ?
Non, ça peut l'être peut-être à ce moment-là, peut-être pour la médecine, en effet, en se disant, bon, on n'a pas réussi voilà, à sauver cette personne. C'est vrai que ça dépend toujours de l'âge, bien sûr, mais je pense que les médecins font ce qu'ils peuvent aussi, enfin, voilà, dans leur traitement, dans leur recherche de protocoles, voilà, de ce qu'il y a de mieux pour les patients. Et... c'est un échec, oui, pour certains, mais à la fois, on n'est pas maître, on n'est pas maître de cette vie, justement. Donc, à un moment donné, la mort voilà, fera de toutes les façons son passage. Et le plus dur, ce sera d'accepter petit à petit ce départ qui, des fois, est brutal, en effet. Hein, mais voilà, c'est tout un cheminement.
Parce qu'en parlant d'échec, pour moi, on rentre dans les thèses de transhumanisme, de... personnes qui vont cryogéniser, garder leur corps en pensant que dans 150 ans, on sera capable de trouver une solution. Et moi, je trouve que cette dimension d'échec, elle est violente. Et non, je pense que ce n'est pas un échec. Ça fait partie de, encore une fois, ça fait partie de la vie. Et la médecine n'est pas toute puissante, c'est pas tout faire. Et heureusement, d'ailleurs. Oui, ils font le maximum. Mais un petit peu de tolérance aussi, je crois, par rapport à ce qui est possible et ce qu'il faut aussi accepter, je crois, comme faisant partie du vivant.
Est-ce que pour vous, c'est un passage ? Du coup
Une bonne question. Une question que je me pose, et je crois que c'est pour ça que j'organise aussi ces moments-là. Je crois que c'est
vous aussi,
une
vous
question
cherchez
que j'explore.
Vos réponses.
Et je cherche aussi mes réponses. Ouais. Je crois que c'est en échangeant avec toutes ces personnes, autant en soins palliatifs que dans ces apéros, qui sont des moments, encore une fois, pleins de vie. Hein. C'est vraiment, on rigole, on pleure, il se passe tout. Hein. Mais je crois que j'explore,
en fait.
Il y a de l'émotion, il y a de la place pour l'émotion. C'est des moments très vivants. Et je crois que j'explore aussi cette question pour moi. Ouais.
Pour Platon, donc, dans l'Antiquité, hein, déjà, la mort, en fait, ça pouvait être la mort de l'âme, mais ça pouvait être aussi un emprisonnement, un esclavage. Donc, est-ce que vous partagez ça ? C'est qu'effectivement, la mort n'est pas... On peut être vivant et déjà avoir d'autres morts qui sont plus compliquées, finalement.
Oui, quand on... quand on rencontre, voilà, on voit bien aussi que les gens sont peut-être aussi encore en colère. C'est surtout en colère peut-être face à quelqu'un. Enfin, il y a des pardons, peut-être un chemin vers le pardon en fait à faire, à cheminer. Et ça, c'est très difficile. Des fois, il y a des pardons qui sont impossibles à donner. Et c'est vrai que d'avoir cette espérance de dire bah, si quelqu'un peut pardonner pour moi, en fait, mais intérieurement j'ai envie de pardonner, j'ai envie de me libérer, en fait c'est ça, c'est pour moi avant la mort, c'est de se préparer tout en se libérant, se libérer justement de toutes ces voilà, de toutes ces faiblesses, enfin voilà, tous les pardons qu'on a encore à faire, à donner, à recevoir aussi. Et ça, c'est pour moi le cheminement le plus important, et d'accompagner le patient justement si possible, hein, ou la famille aussi vers ce cheminement là pour que le patient soit prêt à partir, en fait. C'est ça, c'est
à nous quitter. Eh ben merci Chrysoline Dahl et Emmanuel de Maillard d'être venus dans les studios de RCF aujourd'hui pour nous parler donc de la mort. Et donc je vous souhaite de belles fêtes de tous les saints le 1er novembre et des défunts le 2 novembre.